nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Aimerait l'Amérique. Et il va s'asseoir à un petit bureau. Pour faire l'ordonnance. Sans même l'avoir ausculté. Prend ses papiers. Et lui dit. Un peu de fatigue, de fortifiant et quelques jours. De détendre, et voilà. Il se lève, range ses affaires. Nathalie se dit, je suis parfaitement bien. Je ne suis pas malade, simplement, je veux rentrer en France. Et refuse d'aller à toutes ces mondanités comme chez les Cliff. Le médecin lui dit, ça prouve que vous êtes vraiment fatigué, parce que refuser les Cliff, il faut beaucoup de repos. Refuser les Cliff, la famille la plus estimable du comté, quelle foutaise, quelle folie. On voit que vous êtes vraiment malade, vous alors. Et il la quitte. Elle se dit qu'il est complètement fou. Nathalie est dorlotée. On lui apporte ses médicaments, ses repas, plusieurs fois par jour aussi. Tout le monde est poli, gentil avec elle. Elle a toujours sommeil et ne voit pas les jours passer. Ses cousins viennent la voir souvent. Ils essayent de la distraire en lui racontant leurs petites histoires. Tony ne parle que de sa fille. Les premiers temps, Nathalie est heureuse d'être comme ça. Puis, petit à petit, ça l'énerve d'être toujours à moitié endormie. Le peu de force qu'elle a lui fait prendre conscience qu'en son état, elle se dit, on cherche à m'endormir pour éviter que je parte. À force de prendre des médicaments, ils font de moins en moins effet. Cela la rend de plus en plus lucide. Elle reprend des forces et se dit qu'elle doit le montrer. Ne pas montrer que des médicaments font moins effet parce que l'en donneront des plus forts. Elle décide de faire semblant d'être malade et de prendre des forces et de s'enfuir. Elle joue bien la malade. Sa mère s'inquiète de la voir comme ça. Elle dit à Marguerite,
« Elle est bien faible,
Marguerite lui dit.
Ce n'est rien, il faut bien qu'elle soit comme ça pour qu'elle puisse rester ici. Elle est majeure, elle pourrait partir sans rien nous dire. »
Anne lui dit,
« C'est vrai, trouvons-lui un parti et marions-la. »
Marguerite lui dit,
« Ce n'est pas facile, elle a l'air difficile. » Et elle tient vraiment à ce Gilbert. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, toi. Tu ne veux pas qu'elle fréquente ce jeune homme. C'est le fils de l'homme le plus riche de France, et même du monde. Je ne vois pas ce que tu veux de plus.
Anne lui dit,
s'il est riche, c'est parce que sa famille nous a dépossédés. C'est nous qui devrions être riches à sa place.
Marguerite lui dit,
je ne comprends pas. Toi et ta mère, vous ne pouvez pas être dépossédés, puisque vous n'aviez rien. Mais nous avions eu, et il nous a tout pris. Mon père était très riche.
Marguerite lui dit,
il ne m'a jamais dit ce que faisait ton père.
Dans les affaires.
Quelles affaires? Je ne sais pas, toutes. Il était très connu.
Marguerite lui dit,
peut-être, mais moi, je ne l'ai jamais connu. Et j'ai jamais entendu parler d'un Poncet. De Pontoise, jeune tout, diable, oui. Et maintenant, Framblant.
Anne lui dit,
sans mon père, il ne saurait rien. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'origine de tout ça.
Quoi?
Leur fortune. Je ne veux pas que ma fille se marie avec le membre d'une famille de voleurs.
Marguerite lui dit,
ce serait peut-être la seule solution pour que votre famille récupère sa fortune.
Anne lui dit,
nous la récupérons sans leur aide.
Comment?
En les supprimant tous.
Vous voulez les tuer? Anne lui répond,
s'il le faut, oui.
Marguerite lui dit,
tu aimerais beaucoup ton père.
Anne lui dit,
je l'ai aimé, oui, puis je l'ai détesté autant que je l'ai aimé. Lorsque j'ai découvert qu'il était un monstre.
Et ta mère?
Ma mère aussi. Marguerite lui dit, pauvre homme. Et maintenant, tu cherches à défendre ses biens.
Anne lui dit, oui, parce que ceux qui ont pris sa place sont pires que lui.
Marguerite lui demande, que font-ils?
Anne lui dit,
il veut s'emparer de la vie, de tout ce qui vit. Mon père, lui, ne cherchait qu'à s'emparer du monde.
Marguerite lui dit,
pauvre Nathalie! Qu'est-ce qu'elle fait au milieu de tout ça? Elle ne veut plus voir ses fous et rester chez nous.
Nathalie prend des forces, mange bien, dort bien.
Un matin, au lever du soleil, alors que la maison est encore endormie, elle se lève sans faire de bruit. Va vers l'armoire, sa valise. Et il met ses affaires dedans. Une fois que c'est fait, elle s'habille. Et sort de la chambre. Elle longe le couloir. Il est 6 heures du matin. Les domestiques ne sont pas encore levés. Elle longe le couloir en essayant de faire le moindre bruit possible. En passant devant la porte de Tony, la porte est ouverte. Il est en pyjama, beige, les cheveux ébouriffés. Il lui dit:
tu pars?
Elle lui fait: chut, oui. Il lui demande: tu as de l'argent? J'ai ma carte. Elle l'embrasse sur la joue. Elle lui dit: tu retournes rêver à ta fée? Il lui dit: ce matin tu es ma fée. Elle lui dit: une fée qui va s'envoler. Tu as une belle robe blanche? Merci. Et elle le quitte. Il la regarde s'éloigner. Elle descend des escaliers. Et va ouvrir la porte de la maison. Dehors, il fait moins frais. Elle va jusqu'au portail, l'ouvre et sort. Elle se trouve sur la route. Elle a décidé d'aller jusqu'à la ville pour prendre un train qui l'amènera jusqu'à une autre ville pour prendre un avion pour New York et jusqu'à Paris. Elle marche sur la route. Il est encore très tôt pour prendre. Il est encore trop tôt pour prendre le car. Elle marche, sa valise à la main. Et au fur et à mesure qu'elle marche, elle se sent de mieux en mieux. Elle se demande, bien entendu, comment elle va retrouver Gilbert et pourquoi il ne l'a pas écrit. Elle ne l'a pas prévenu de son départ. Arrivée à Paris, elle téléphonera à sa mère pour lui dire qu'elle est bien rentrée. Elle sera sûrement furieuse contre elle. Tant pis. Tout à coup, elle voit arriver sur la route une grande voiture blanche décapotable qui vient vers elle. Devant Nathalie, la voiture s'est arrêtée. C'est une femme, blonde, cheveux mi-longs, visage fin, mais un peu las, lèvres bien dessinées, grands yeux bleus. Elle porte un tailleur blanc et un chapeau blanc aussi. Elle demande à Nathalie, « Vous voulez que je vous dépose quelque part ?» Nathalie lui dit, « Oui, je vous remercie. J'aimerais aller à la ville la plus proche pour prendre le train. » La femme lui ouvre la portière avant, et lui dit, « Montez !»« Merci. » Nathalie monte. « Mettez votre valise sur le siège arrière. » C'est ce qu'elle fait, et elle met la voiture en route. La femme, en conduisant, la regarde et lui dit
« Vous n'êtes pas américaine, vous ?»
Nathalie lui dit « Non, je suis française. »«
Et que faites-vous sur cette route ?»
Nathalie lui dit « Je suis allée voir une famille des Américains. » Et voilà. La femme lui sourit et lui dit
« Et vous avez décidé, c'est de quitter ?»
Nathalie lui dit « Oui. »
La femme lui dit, « Je m'appelle Suzy.
Moi, Nathalie. »
Suzy lui demande, « Vous aimez l'Amérique ?»«
Un peu, mais c'est fatigant à la longue. » »«
Moi, je suis parti vivre en France quelque temps, après un accident. J'avais besoin de repos et de changer d'air. C'est beau, Paris. Nous allons nous arrêter pour prendre le petit déjeuner. Vous voulez bien ?» Vous avez faim ?
Oui. Et elle va arrêter sa voiture devant un restaurant de routier. Elles sortent de voiture et vont rentrer dans le restaurant. Un restaurant routier, la salle est décorée en ranch. Il y a des tables avec des nappes à carreaux rouges et blancs. Quelques personnes sont attablées, des dîneurs, des pêcheurs, des routiers. Elles s'assoivent à une table. Un gros homme, à chemise écossaise rouge et blanche, pantalon marron, il est gros, grand, vient vers elle pour la commande. Suzy dit «
Petit déjeuner complet, s'il vous plaît. »
Et l'homme se retire. Suzy lui dit
« Vous êtes disputé avec votre famille. Que vous partiez comme ça. »
Nathalie lui dit
« Non, pas du tout. Mais j'avais envie, c'est de revoir mon pays. Et puis, il voulait, c'est que je reste ici. Il voulait que... Il s'était mis dans la tête de marier ici. »
Suzy lui dit,
j'ai bien fait de vous enfuir.
L'homme vient les servir, leur sert leur petit déjeuner complet et se retire.
Vous avez raison, les maris américains sont les plus minables et les belles-mères sont les plus horribles.
Nathalie lui demande, vous avez été mariée? Vous êtes mariée?
Non, mais j'ai failli. J'ai même été fiancée, mais ça n'a pas marché.
Nathalie lui dit, je suis navrée.
Suzy lui dit, surtout pas. De toute façon, les hommes ne n'aiment que les femmes qui est la copie de leur mère. Ce sont pour eux. Nous sommes pour eux que de vulgaires copies de leur mère.
Nathalie lui dit, et les femmes?
Mais moi je n'ai pas connu mon père. Il est mort avant sa naissance. Avant ma naissance.
Suzy lui dit,
ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a des pères possessifs et des filles possessives. Nathalie lui dit, alors on devrait tous se marier avec ses parents. Suzy lui dit, ça éviterait peut-être beaucoup de choses. Mais les mariages consanguins font des enfants pas très bien portants.
Une fois qu'elles aient pris leur repas, elles sont reparties sur les routes. Il fait très chaud, le soleil tape beaucoup. Heureusement que la voiture est décapotable. Nathalie se sent détendue. Cela lui fait du bien. Ça fait des mois qu'elle ne s'est pas sentie aussi bien.
C'est le pays de mon enfance ici. Nathalie lui dit, ah, vous habitez ici?
Suzy lui dit,
nulle part. Je vais d'un coin à un autre. J'habite que tel, c'est bien. Pas de soucis, tout est prêt. Pas besoin de penser au plombier et ou au repas. La vie idéale, non?
Nathalie lui dit, mais vous faites quoi comme métier?
Je suis architecte et présente mes projets, mes services aux villes et aux entreprises.
C'est pas trop dur pour une femme?
Non, pas du tout. Et puis, très vite, on sait, on nous aime bien maintenant, nous les femmes, parce qu'elles pensent plus aux choses quotidiennes. Comment les gens vont vivre et entretenir les choses qu'elles ont conçues. C'est bien de faire des grandes baies vitrées, mais il faut penser comment elles peuvent être nettoyées, remplacées, etc. Chose que les hommes ne pensent jamais.
Et vous, que faites-vous?
Nathalie lui dit, je prépare une thèse sur les sectes.
Suzy rit, lui dit, ça c'est bien français ça.
Elle continue à rouler.
Lui dit, ce pays me rappelle de mauvais souvenirs.
Nathalie lui dit,
oui, votre jeunesse?
Oui, lorsque j'étais jeune, il y a de cela pas si longtemps que ça, j'ai connu un homme, un jeune homme. Il était issu d'une très bonne famille. Il vivait seul avec sa mère, vieille folle, possessive. Elle ne voulait pas que nous nous marions. Elle voulait voulait garder son petit. Il m'a présenté à sa mère. Elle m'a à peine dit bonjour. Zoé continue à nous voir. Nous disions qu'elle s'habituerait à cette idée. De temps en temps, il m'invitait chez lui. Comme ça, chez sa mère, qui était toujours hostile. Des fois, je couchais dans la chambre d'amis, près de celle de mon fiancé. Ça agaçait la mère. Un soir, que je dormais chez eux, dans la chambre d'amis, j'ai été réveillé par le bruit de la porte de la chambre qui s'est ouverte. J'ai vu une ombre s'approcher. J'ai demandé : c'est toi, Mathieu ? Il n'a rien dit. Alors, la personne s'est précipitée sur moi. Sur le lit, j'ai crié, hurlé. Au secours, au secours. Personne n'est venu. J'ai vu, avec horreur, lever au-dessus de moi quelque chose qui brillait dans le noir, comme une lame de couteau. Alors, j'ai perdu connaissance. Le noir. J'avais mal. Je suis réveillé. J'ai vu du blanc. Du blanc, du blanc. Des draps blancs. Lumière blanche. J'avais mal de partout. Je ne pouvais pas bouger. Et j'étais très faible. Le temps est passé comme ça. Puis, la porte s'est ouverte. J'ai vu apparaître une forme, grande forme mince, cheveux blancs, blouse blanche. Il s'est approché vers moi. Vous allez mieux ? J'ai rien pu lui dire. Il m'a dit, ça va aller, ne vous faites pas de soucis, les cicatrices vont se refermer. Ça va se ressouder. Ça passera. Nous avons recousu certaines cicatrices et pansé d'autres. Vous étiez en piteux état, mais maintenant ça va. Allez. J'ai réussi à articuler, mais où suis-je ? Le médecin lui a dit. Vous êtes dans une clinique. Vous ne risquez rien. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production
Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.